Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, l'expérience centrale de la vie chrétienne est bien celle de la conversion, de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Ce devrait être d'ailleurs l'expérience la plus importante de notre vie, car l'Écriture sainte insiste sur le fait qu'on ne naît pas chrétien, mais qu'on le devient le jour où on se tourne vers Christ pour le prendre comme notre Sauveur et Seigneur. Ce jour-là, il entre en nous par son Esprit et il opère une puissante transformation pour le bien, de sorte qu'on peut s'écrier avec joie « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ». Alors on est délivré de nos addictions, des passions mauvaises dans notre vie, alors on reçoit la puissance d'en haut pour avoir la victoire sur le péché dans notre vie, pour vaincre les mauvaises tendances qui sont en nous. Oui, c'est un jour merveilleux, inoubliable. Avez-vous fait cette expérience dans votre vie ? Si ce n'est pas encore le cas, venez au Seigneur sans plus tarder dès aujourd'hui, afin d'hériter dès aujourd'hui aussi une grande bénédiction de la part du Seigneur. Voici le témoignage du docteur Howard Thomas, qui a pour titre « Cramponné à la drogue ». 9 ans d'abus de la drogue avaient entaché lourdement ma vie personnelle et professionnelle. Mon agonie et mon humiliation furent à leur comble un certain matin de printemps 1965, quand 2 agents pénétrèrent dans ma clinique, me mirent les menottes et me transportèrent dans une salle d'hôpital fermée à double tour. Tandis que l'auto de police approchait de l'hôpital, mon esprit angoissé revivait les moments cruciaux de ma vie qui, depuis des années déjà, n'avaient cessé de dévaler la pente pour en arriver là. Mon expérience de l'alcool et de la drogue a commencé d'une façon tout à fait innocente. Quand nous étions étudiants, ma femme et moi, nous commençâmes à boire dans les parties où nous étions invités. Pendant que j'étais interne à Atlanta, je travaillais souvent jusqu'à minuit. Je conduisais ensuite jusque dans l'ouest du Tennessee pour voir mon père qui était malade. Je commençais alors à prendre des pilules pour me tenir en éveil et je me pris à aimer le sentiment de joie qu'elle me procurait. Comme beaucoup de ceux qui s'adonnent à la drogue, je me mis à doser ces pilules au moyen d'autres stupéfiants pour atteindre un degré plus excitant de « bonheur », entre guillemets. L'expérience me montra par la suite que c'était là un jeu bien dangereux. Lorsque mon esclavage de la drogue devint plus serré, je commençais à me l'injecter, ce qui agissait beaucoup plus rapidement, et j'ajoutais au programme d'autres narcotiques, comme la morphine par exemple. D'une piqûre par jour, j'en arrivais à plusieurs, et les derniers temps, je finis par me faire plusieurs injections par heure. Le cours de mes pensées fut interrompu par l'arrivée de l'ambulance policière dans l'hôpital neuropsychiatrique. On m'enferma dans une salle, en compagnie de drogués et de délinquants. Je me sentais fort humilié d'avoir été amené comme un criminel dans cet endroit. Mon entourage immédiat se chargea de me faire comprendre à quel point j'étais bas tombé. Pendant les moments d'attente dans cette salle, mes pensées me reportèrent vers l'année lointaine de 1956, où j'avais ouvert une clinique dans la partie ouest du Tennessee. La drogue n'était pas encore un problème pour moi, mais ma situation était difficile, car j'avais emprunté pas mal d'argent pour monter ma clinique et établir une clientèle. Nous commençâmes, ma femme et moi, à nous associer à la clique mondaine de la société de l'endroit et à prendre part à leurs parties déréglées. Ce genre de vie ne nous plaisait pas, il est vrai, et je m'adonnais de plus en plus à la drogue. Pendant les années qui suivirent, ma clientèle diminua en fonction même de mon abus de la drogue et notre vie familiale fut compromise par ma conduite excentrique. Ma femme et mes 3 fils souffraient de ce que je les délaissais si souvent. Je m'installai dans une autre petite ville. Mais bientôt, mes malades découvrirent qu'il y avait quelque chose de drôle chez le docteur. Comme un véritable esclave, je ne vivais qu'en vue de la piqûre qui allait suivre, et j'interrompais même le traitement de mes patients pour une intraveineuse. Parfois, je quittais la maison pour visiter les malades, et je me retrouvais le lendemain matin, le long de la route ou dans les bois. J'avais dormi toute la nuit dans une espèce de torpeur due aux stupéfiants et aux drogues. Quelquefois même, je m'endormais au volant où j'étais pris d'hallucinations, ce qui se solda par de graves accidents qui me coûtèrent presque la vie et en tout cas 3 autos. Ne pouvant comprendre comment j'arrivais à survivre, je pensais quand même que Dieu devait avoir la main sur moi. Je courais le danger de me voir refuser l'autorisation d'exercer la médecine. Une crise s'annonçait aussi dans mon foyer. Je désirais être un véritable père pour mes enfants qui grandissaient et voilà que je passais de moins en moins de temps avec eux. Je n'arrivais même à passer la nuit au bureau. Quelques temps après, Anne, ma femme, s'en alla avec les garçons vivre chez sa mère. En dépit de cette situation désespérée, je me sentais incapable de rompre mes liens et mon abus des drogues augmenta graduellement de 1962 à 1965. L'hôpital était une vraie prison. Pour échapper un peu à cette atmosphère déprimante, j'allais au service religieux chaque dimanche et c'est là qu'un certain matin, Dieu planta la semence d'une vie nouvelle dans mon cœur. Je commençais alors à penser que peut-être Jésus-Christ pourrait me délivrer. Après ma sortie de l'hôpital, plusieurs semaines plus tard, je revins vers ma mince clientèle, mais je savais que je n'en aurais pas pour longtemps avant de reprendre à la seringue. Plus de foyer, une clientèle s'amenuisant de jour en jour, un vide se creusait toujours plus profondément dans ma vie. Sur l'insistance d'un ami, je lui promis à contre-cœur d'assister à la retraite spirituelle des laïcs de la Caroline du Nord. Depuis des années, j'étais membre d'église et je m'imaginais à peu près ce que j'allais entendre à cette conférence. Mais je me trompais. Les hommes qui prirent place dans le car à destination de la retraite semblaient tout différents de ceux que je connaissais. Ils étaient joyeux et discutaient sur des passages bibliques tout naturellement. Quand on s'arrêtait pour prendre de l'essence, plusieurs parlaient de Jésus aux garagistes. Une chose était claire, ils connaissaient Jésus réellement, comme l'aumônier qui nous avait parlé de lui en prison. Peu après notre arrivée, on m'invita à une réunion de prière dans la chambre d'un des participants à la retraite. En les regardant prier, je sentis que mon cœur commençait à se réchauffer. L'ardente intercession d'un jeune homme me toucha profondément. Il demandait à Dieu de permettre que ses parents séparés puissent être à nouveau réunis. Je voyais mes trois fils, Jimmy, Bobby et Joe. Combien j'étais angoissé en pensant à l'échec de ma vie de mari et de père. Vivement troublé après cette réunion de prière, je réalisais clairement que ces amis possédaient quelque chose dont j'avais désespérément besoin. Mais je ne savais pas comment le trouver. Dans l'agonie de mon âme, je priais toute la nuit sans trouver la paix. En traversant le jardin le lendemain matin, j'aperçus quelques hommes qui avaient assisté à la réunion de prière de la veille. Mon cœur criait au secours au-dedans de moi, mais je n'en dis pas un mot. Un plombier, sentant ma détresse, me dit doucement, en mettant sa main sur mon épaule, « Docteur, voudriez-vous connaître le salut ?»« Plus que toute autre chose au monde, lui répondis-je. » Plusieurs de ses compagnons se mirent à genoux avec moi, sous un chêne, et nous priâmes jusqu'à ce qu'enfin la paix et la puissance de Christ envahissent mon cœur. Pour la première fois de ma vie, la présence de Jésus était sensible à mon âme et je savais que mes chaînes étaient tombées. Quelques jours plus tard, je revins chez moi rempli de joie et désirant ardemment témoigner de ma nouvelle expérience. Il me tardait de pouvoir dire aux autres que Jésus peut transformer la vie et je voulais surtout voir ma femme et mes enfants et leur dire ce qui m'était arrivé. Anne se montra très sceptique à l'égard de cette « transformation » entre guillemets et ne voulut pas reprendre la vie avec moi. Elle me rappela qu'elle avait fait une demande de divorce. Triste et déçu, je repris le chemin de la maison. J'essayais de sauvegarder ma clientèle, mais je savais qu'il faudrait du temps pour regagner sa confiance. J'étais bien résolu à déclarer à mes malades que Christ avait donné à ma vie une force nouvelle. Chaque jour, je priais tout simplement « Seigneur, aide-moi à passer cette journée sans drogue. » Je commençais à recevoir des invitations, à donner mon témoignage dans les églises de la région, et je déclarais hardiment ce que Jésus avait fait pour moi. C'était là un bien nouveau rôle pour moi, qui n'avais jamais aimé parler en public. Ma famille me manquait terriblement. Il me tardait de pouvoir leur témoigner l'amour et la protection dont je les avais privés. Juste avant une réunion à laquelle on m'avait demandé de prendre part, dans une petite église méthodiste, j'allais voir ma femme pour la prier de venir avec moi. À ma grande surprise, elle fut d'accord. Le Saint-Esprit bénit mon témoignage, et quand le pasteur fit l'appel à la conversion, la première à se lever fut Anne. Bien qu'elle ait été depuis longtemps membre d'église, elle reconnut qu'elle n'avait jamais livré son cœur à Christ avant ce soir-là. Cette expérience marqua un nouveau départ pour notre foyer. Anne et les enfants revinrent à Saltillo et nous fîmes l'expérience bénie de fonder un foyer chrétien. C'était un départ tardif, mais Dieu est miséricordieux et nous aida à regagner du terrain. Les garçons se donnèrent à Christ et commencèrent à témoigner en classe. Ma clientèle augmentait et la voie s'ouvrait pour le contact spirituel avec mes malades qui avaient besoin de salut. J'en vins à la conviction que c'est Dieu qui guérit et que mon rôle était de l'aider du mieux que je pouvais. Comme les invitations à témoigner se multipliaient, je sentais chaque jour davantage le besoin de m'approcher de Dieu pour recevoir ses dons. Anne et moi parcourions des centaines de kilomètres pour assister à des réunions de réveil et nous nous mîmes à rechercher avec ardeur la puissance du Saint-Esprit en nous appuyant simplement sur la promesse du Seigneur qui dit dans la parole de Dieu « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Une nuit, Anne me réveilla en s'écriant « Howard, réveille-toi, c'est vrai, c'est vrai !»« Qu'est-ce qui est vrai ?» demandai-je encore, endormi. « Le baptême du Saint-Esprit !» et s'exclama-t-elle. « Je l'ai reçu, et c'est encore plus merveilleux que ce que je pensais. » Nous passâmes le reste de la nuit à louer Dieu, à nous réjouir en sa présence. Mon désir de faire la même expérience devint encore plus ardent. Anne rayonnait de joie. Elle témoignait tout autour d'elle à nos voisins, et commença à prier pour les malades avec puissance. Plusieurs semaines après cette expérience glorieuse, notre chambre à coucher semblait encore remplie de la présence de Dieu et de sa puissance. Je reçus le baptême du Saint-Esprit pendant la nuit. Je m'éveillai en louant Dieu dans une autre langue. La joie du ciel inondait mon âme et Jésus me devint encore plus précieux. Cette expérience a ajouté une glorieuse dimension à ma vie chrétienne. Dieu continue à bénir notre maison, nos malades. Il nous donne toujours plus d'occasions de parler de lui dans les églises, dans les collèges et même à la télévision. L'une de mes plus belles expériences, je la fis le jour où on me demanda de m'adresser aux jeunes drogués dans une maison de délinquants à Memphis. En regardant ces jeunes gens au visage torturé, je bénissais Dieu de pouvoir leur faire pas plus qu'un exposé sur l'effet clinique de la drogue, mais de leur parler de Jésus-Christ qui m'avait libéré et qui pouvait aussi les libérer. Amen. Amen. Voilà un beau témoignage de la puissance de délivrance du Seigneur et de tous les merveilleux effets que cela produit lorsqu'il agit, lorsqu'il sauve, lorsqu'il délivre. Et nous voulons encore ensemble maintenant ouvrir la parole de Dieu et avant cela remettre la suite de ces moments au Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu de ce que tu agis encore aujourd'hui. Tu es encore le Tout-Puissant pour secourir chacune et chacun de ceux qui sentent le besoin et qui se tournent vers toi. C'est toi-même qui dis dans l'Écriture, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Merci Seigneur, et merci parce que tu bénis aussi ta parole, pour que chacun et chacune d'entre nous en reçoive une pleine bénédiction par ta grande grâce. Amen. Amen. Voilà, eh bien, ouvrons donc l'Écriture sainte dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, où nous lirons à partir du verset 40. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, c'est-à-dire Jean-Baptiste avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Voici une anecdote pour commencer. Ça s'appelle l'anneau de salut. Sur un des murs massifs de chaque cathédrale du Moyen-Âge, se trouvait scellé un solide anneau de fer appelé l'anneau de salut. Il suffisait à un malfaiteur de le tenir pour être momentanément à l'abri des poursuites. Il y avait aussi un espace de salut qui s'étendait à 50 pas autour de ces mêmes cathédrales et constituait un lieu d'asile sur lequel personne ne pouvait être arrêté. Ainsi étaient introduits quelques adoucissements à la justice d'alors plutôt impitoyable. Ces mesures semblent avoir été inspirées des cités de refuge que Dieu avait prévues pour le pays d'Israël. Ces villes étaient destinées à accueillir les homicides par accident. Ceux-ci pouvaient s'y réfugier et y rester, si réellement il était prouvé qu'ils n'avaient pas tué volontairement. Aujourd'hui encore, chacun a véritablement besoin de s'enfuir pour atteindre une ville de refuge. En effet, il n'existe personne qui n'ait pas commis un grand nombre d'actes contraires à la justice de Dieu. Moi aussi, je suis coupable. Ma vie passée est une somme d'offenses à Dieu et mes décisions ont souvent été dominées par l'égoïsme ou l'orgueil. Que me reste-t-il à faire? Seulement à saisir l'anneau de salut, à tendre la main vers Dieu qui depuis longtemps tend la sienne vers les hommes en donnant son Fils pour expier leurs fautes volontaires et involontaires. Voici donc une anecdote qui nous parle de cette grande nécessité de la conversion à Dieu, d'une véritable conversion pour être sauvé dans cette vie comme dans l'éternité. Qu'est-ce qu'une vraie conversion ? Nous avons entre autres un texte qui nous en parle admirablement, c'est celui que nous avons lu dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 40 à 42. Donc, et en méditant sur ce texte, nous pouvons y relever une dizaine de points concernant une véritable conversion. Déjà, en premier, des conversions en venant à Jésus et en le cherchant. Comme on le dit au début du verset 41, « Beaucoup de gens vinrent à lui ». Ces gens ont dû chercher Jésus. Celui-ci avait dû s'enfuir de Jérusalem, où on en voulait à sa vie, comme on le voit dans les versets 31 et 39 du contexte précédent, et il n'avait certainement pas fait claironner partout où il se rendait. Mais ils l'ont cherché. Et parce qu'ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. C'est le Seigneur qui dit « Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Souvenez-vous de la femme syrophénicienne. Jésus ne voulait pas que quiconque sache où il se trouvait. Mais il est écrit qu'il ne put rester caché, car cette femme avait fait tous ses efforts pour le trouver. Et aujourd'hui, il en est exactement de même. Une conversion, cela commence par une recherche sincère, profonde et persévérante du Seigneur et de sa volonté. Et il ne faut pas hésiter à y passer du temps. Il nous faut faire des efforts pour cela. Il ne faut nous laisser distraire ni divertir par rien dans cette recherche. Il nous faut nous consacrer tout entier à cette affaire et il nous faut agir avec volonté et résolution à ce sujet. Il y a différents exemples de personnages bibliques qui ont ainsi cherché le Seigneur et sa présence. Et où cela est particulièrement évident, qu'il s'appelle Nathanaël, ou le centenier Corneille, ou le nuque éthiopien, parmi bien d'autres. Nous voyons chez chacun d'eux cette attitude de recherche du Seigneur, de sa face, de ses désirs. Et nous voyons qu'aucun d'eux n'a été déçu. Bien au contraire, ils ont été bénis au-delà de ce qu'ils pouvaient espérer. Et puis, ensuite, en deuxième, pour une vraie conversion, c'est des conversions qui se font sur le témoignage et l'opération de miracles. En effet, il est marqué au verset 41, beaucoup de gens vinrent à lui et dirent « Jean n'a fait aucun miracle ». Voilà. Or, ces gens avaient vu des miracles, ou ils ont vu le résultat de miracles. Ils ont entendu le témoignage de miracles. Et cela les a aidés à reconnaître la supériorité de Jésus sur Jean-Baptiste, bien que cela n'ait pas été leur seul élément de décision, comme nous pourrons le voir dans la suite. Ah, les miracles ont toujours été une puissante indication de la présence et de la puissance du Seigneur, du moins tant qu'ils accompagnent la prédication de la parole de Dieu. Car il est une sorte de miracle par lesquels nous ne devons pas nous laisser tromper. Ce sont ceux qui sont opérés par le diable et ses anges. La Bible dit qu'il y en aura ainsi dans les derniers temps. Le diable accomplira de grands miracles au point de tromper, s'il était possible, même les élus, est-il marqué. Et nous devons veiller à ne pas laisser ces choses nous impressionner, ne pas nous laisser impressionner par ce genre de miracle-là, car hélas, il peut en exister aujourd'hui. Mais notre Dieu vivant, lui, accomplit de grandes choses pour les siens, pour répondre à leurs prières, pour les guérir, les délivrer et les exaucer. Il accomplit de grandes choses pour ceux qui s'approchent de lui et qui s'attachent à lui. Et quand on voit une assemblée comme celle dont plusieurs d'entre nous font partie, dont je fais partie moi-même, et qu'on se souvient de ce que cela représente comme masse de témoignages du miracle divin. Voilà des gens dont certains devraient être morts, d'autres ont été délivrés de terribles maladies, il y en a qui étaient pris de grandes angoisses, nul autre que le Seigneur ne pouvait les en libérer. Il l'a fait, béni soit son nom. Il y en avait qui avaient des difficultés inextricables, et c'est quand ils ont crié au Seigneur qu'une solution est apparue, qu'une œuvre de solution s'est accomplie. Quel privilège qu'une assemblée semblable! Quel encouragement à la conversion! Mais aussi, quelle responsabilité! car c'est là un moyen de mettre à l'épreuve chacune et chacun de ceux qui entrent en contact avec elle pour voir si oui ou non ils veulent se convertir eux-mêmes. Bien, troisième point concernant la réalité de ces conversions, des conversions suite à la prédication par un homme de Dieu. Puisque dans ce verset 41, il est marqué « Tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai ». Ces gens dont il est question là avaient de toute évidence été préparés avant que Jésus n'arrive. Et ils parlaient de Jean comme de quelqu'un qu'ils connaissaient. Et il est vrai qu'ils le connaissaient, car il avait vécu au milieu d'eux. Et quel était le principal travail de cet homme de Dieu ? Était-ce de se mettre en évidence lui-même ? Pas du tout. C'était de prêcher la parole de Dieu. Il fallait qu'il annonce ce message avec fidélité, avec assurance, avec courage, avec vérité. Pour que ces gens puissent se convertir, il fallait cela. Et ce n'était pas Jean-Baptiste qui convertissait les gens, mais il était un moyen indispensable pour cela. Et il en est toujours de même aujourd'hui. La foi naît et grandit dans un cœur véritablement converti, mais la foi d'où vient-elle ? Comment peut-elle grandir ? Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Ah, pour que les gens se convertissent, il faut la prédication, il faut des prédicateurs, et il faut que ceux qui veulent se convertir et que ceux qui sont convertis écoutent la prédication de la parole de Dieu et la reçoivent. C'est pour cela qu'encore dans Romains chapitre 10, versets 14 et 15, nous lisons la chose suivante. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Combien il est donc nécessaire et vital que ceux qui se convertissent s'attachent à la prédication de la parole de Dieu de tout leur cœur et la recherchent le plus possible. Amen. Et puis, des conversions, aussi suite à la prédication au sujet de Jésus. C'est ce qui ressort là encore de ce que Jean faisait. Tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Le centre d'une prédication qui amène à la conversion, c'est Jésus proclamé comme Sauveur et Seigneur. Et nous voyons bien que Jean-Baptiste a été très clair en cela, avant même qu'il connaisse Jésus, et à plus forte raison, après aussi, bien sûr. Je peux vous citer une série de passages. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Il parlait donc de Christ. Au verset 23, il dit encore « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. » Ensuite, toujours dans le même chapitre 1er de l'évangile de Jean, mais au verset 26 et 27, il continue en disant « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Et plus loin encore, verset 29, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et plus loin encore, au verset 32 puis au verset 34, Jean rendit ce témoignage « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Encore plus loin, au verset 36, nous lisons « Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Maintenant, lorsque nous lisons toujours dans l'Évangile de Jean, mais au chapitre 3, au verset 30, voilà encore ce que Jean-Baptiste ajoute « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. » Et au verset 34, « Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Et enfin, au verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » À la lecture et surtout à la méditation que nous ne pouvons pas approfondir ce soir de ces passages, qui oserait dire que Jean-Baptiste n'a pas pris Jésus comme thème central de sa prédication ? Et en effet, une conversion réelle, c'est une conversion à Jésus-Christ, qui nous fait l'aimer, qui nous fait l'adorer, qui nous fait le servir de tout notre cœur. Et comme il faut que notre prédication aille toujours dans ce sens, et que cet aspect en soit reçu par chacun de nous de tout son cœur pour un plein et véritable salut. Et nous voici à notre cinquième point, des conversions par amour de la vérité. Hein, là encore, Jean dit, tout ce que Jean avait dit de cet homme était vrai. Ce qui a attiré ces hommes à Jésus, c'est de découvrir et de réaliser que ce qu'on leur annonçait est vrai. Ce qui leur importait, c'est ce qui est vrai. Et pour être sauvé, mes amis, il faut avoir dans son cœur l'amour de la vérité. L'amour de ce qui est juste, droit, vrai. Jésus a dit, « Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Dans Jean chapitre 14, au verset 6, il ajoute, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et puis encore, dans la première épître de Jean, au chapitre 5, au verset 20, voici ce qu'écrit l'apôtre. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Ah, ces gens avaient entendu toutes sortes de messages, toutes sortes de théories, toutes sortes de philosophies. Mais rien de tout cela ne les avait touchés. Cependant, quand ils ont entendu la prédication de Jean-Baptiste, il y avait là une force, une autorité, une sincérité, une persuasion et surtout la puissance de l'Esprit de Dieu. Et voilà qui les a déjà fortement ébranlés. Et quand ces gens ont vu, en plus, tout cela était vrai, nous voyons qu'ils n'ont plus hésité, ils n'ont plus résisté et qu'ils se sont convertis à Jésus-Christ. Et ceux qui aiment la vérité, comment pourraient-ils faire autrement que de s'engager suivant la parole de Dieu? Y a-t-il quoi que ce soit qui soit mauvais ou qui pourrait les en dissuader? Y a-t-il le moindre mensonge? Et en agissant ainsi, ils acquerront, progressivement ou d'un seul coup, la conviction que la parole de Dieu est vraie et s'y attacheront de tout leur être. C'est cela aussi la vraie conversion. Et puis, des conversions encore en sixième, basées sur une véritable repentance. Il est évident que ces gens avaient accepté le message de Jean-Baptiste. Or, nous savons que Jean-Baptiste prêchait la repentance, avec une force et une conviction considérables. Ainsi, lisons-nous dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, verset 7. Jean-Baptiste, donc, il est question de lui. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Et il est nécessaire, par conséquent, qu'à la vraie conversion, il y ait une repentance profonde, c'est-à-dire qu'on soit convaincu de péché, qu'on confesse ses péchés à Dieu, qu'on en reconnaisse la gravité, qu'on en soit profondément attristé, qu'on s'humilie soi-même devant Dieu. Et c'est seulement à ce moment-là que les choses vont vraiment pouvoir changer. Il faut avoir bien évidemment aussi ce désir profond de changer, et de changer à la gloire de Dieu. À Phoenix House, le célèbre centre de désintoxication pour drogués de New York, la thérapie de groupe consiste d'abord à écouter calmement les nouveaux patients comment ils ont sombré dans la drogue. C'est alors que l'un des animateurs explique « Ce n'est pas ta mère, ni la société, ni même les pourvoyeurs de drogue qui ont enfoncé la seringue dans ton bras. » C'est toi. Et c'est alors que commence vraiment la thérapie. Et c'est vrai qu'une telle repentance n'est pas forcément quelque chose de très agréable au premier abord. Cela paraît être dans un premier temps un sujet de tristesse et non de joie. Mais malgré tout, quel fruit paisible de justice va être produit ensuite, va en être la conséquence. Et puis en septième, maintenant, des conversions menant à un changement de vie profond et pratiqué dans la vie journalière. Hein. Dans Luc chapitre 3, versets 10 à 14, nous voyons cela. Hein, donc, nous allons lire ensemble ce passage. Luc chapitre 3, versets 10 à 14, où il est encore question de ce travail puissant et béni qui a été réalisé par Jean-Baptiste. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Les soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Voyez-vous, la conversion n'est pas une théorie simplement, mais c'est une réalité. Jean-Baptiste parle de bons fruits, nous l'avons lu dans le verset 9 précédent. Et quels sont ces bons fruits ? Eh bien, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la persévérance, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi, toutes choses qui parlent d'un changement de caractère, toutes choses qui parlent de bonnes actions accomplies et de bienfaits réalisés autour de soi comme jamais auparavant, toutes choses qui parlent de bien rendu pour le mal, qui parlent de générosité, qui parlent de réelles manifestations d'amour, qui parlent de supporter les autres. S'il y a une conversion, ces choses se développeront de plus en plus. Et en même temps, elles seront un grand moyen de toucher et de bénir d'autres personnes et d'autres âmes. On raconte l'histoire de ce chrétien japonais nommé Kobayashi, qui avait inventé une certaine pâte dentifrice qui est un grand succès. Un imitateur malhonnête fut arrêté, condamné et mis en prison. Kobayashi apprit peu après que la famille de son déloyal concurrent était dans la plus grande misère. Pris de pitié, il fit parvenir un don anonyme à la femme du prisonnier et le renouvela chaque mois. Il se passa plusieurs mois pendant lesquels la famille se demandait avec étonnement qui pouvait bien être le généreux bienfaiteur. Un jour enfin, un garçon fut surpris par la femme au moment où il jetait dans sa boîte aux lettres une enveloppe contenant des billets de banque. Elle lui demanda avec insistance de lui dire le nom de celui qui l'envoyait et finit par le lui arracher. Alors elle se mit à pleurer et elle a informé son mari qui lui aussi fut profondément touché. Dès qu'il sortit de prison, sa première visite fut pour Kobayashi, à qui il exprima ses regrets, sa confusion et sa reconnaissance. Le chrétien saisit cette occasion pour expliquer à son ancien rival comment Dieu pardonnait au pécheur coupable du meurtre de son fils. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est marqué « Dieu met en évidence son amour à lui envers nous en ceci, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ». Oui, combien il faut que nous recherchions ainsi avec ardeur, non pas une religion de forme et de rite, comme il y en a tant, mais une véritable conversion. Et puis, en huitième, de véritables conversions qui s'engagent par le baptême. Jean-Baptiste baptisait donc, comme on nous l'indique, ceux qui acceptaient de se repentir, de changer de vie, de se tourner vers Jésus. Le baptême d'eau était un engagement, c'était un choix. Hein, donc, voici une citation. « L'humanité se différencie des autres espèces animales, non pas tellement par ce qu'elle est, mais par ce qu'elle fait. Nous sommes humains par la qualité humaine de nos actions. Or, cette qualité dépend entièrement des choix que nous faisons tous au cours de notre vie. Et que l'humanité a fait au cours de son existence. Être humain, c'est avant tout choisir. » C'est René Dubos qui a écrit ça dans son ouvrage « Choisir d'être humain ». La conversion, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive sans que nous y puissions rien. Mais c'est un choix volontaire, délibéré, réfléchi. C'est même un choix qui se fait dans des circonstances difficiles. En tout cas, pour ceux qui se sont engagés pour Jésus à ce moment-là, il en était ainsi. Nous avons déjà expliqué que Jésus était traqué par des autorités, calomnié, raillé, persécuté. Bientôt, ils allaient mettre le comble à leur péché contre lui en le clouant sur le bois. Mais c'est là que ces gens croient en lui et s'engagent pour lui. Voilà un gage du sérieux de leur conversion. Et je ne voudrais pas que quiconque ici s'imagine qu'en suivant Jésus et en se convertissant, il s'engage dans une voie de facilité où il n'aura pas de problème et où le Seigneur le délivrera de toute difficulté en le faisant marcher sur un chemin semé de pétales de roses et en l'enveloppant de coton chaque fois qu'il y aura le moindre petit risque. Car ceci est faux. Il y aura des persécutions. Il y aura des calomnies et des railleries. Il y aura de l'incompréhension et de la froideur, même de la part de certains de nos proches. Il y aura des attaques du diable. Mais, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par la résolution de votre engagement, vous aurez la victoire. Par le secours du Saint-Esprit, vous marcherez sur la puissance de l'ennemi. Et ainsi vous serez bénis, et au bout du compte, beaucoup finiront par le reconnaître. Notre avant-dernier point nous rappelle que ces conversions se déroulent dans un lieu significatif, puisque nous l'avons vu dans ce verset 42, eh bien, il était question de ce lieu, donc était tout de même quelque chose de tout à fait particulier. Il dit « Dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui, dans cet endroit où Jean avait d'abord baptisé. » Certains disent que le lieu où on se convertit n'a pas d'importance. Et c'est vrai qu'un homme peut se convertir dans différents endroits, et que le principal n'est pas le lieu, mais la réalité de l'expérience. Ce qui est surtout important, c'est qu'on soit réellement converti. Et c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a des lieux qui, pour Dieu, ont une importance spéciale, pas tant à cause du lieu qu'à cause de ceux qui vivent dans ce lieu. Là, Jean-Baptiste avait prêché. Là, la preuve demeurait que même si un homme de Dieu fidèle meurt, sa prédication, elle, ne meurt pas. Là, beaucoup s'étaient engagés dans la confession, la repentance et le changement de vie. Là, beaucoup s'étaient fait publiquement baptiser. Là, surtout, Jésus avait été glorifié publiquement pour la première fois, le Saint-Esprit descendant sur lui sous cette forme de colombe et le Père faisant retentir sa voix de manière audible à tous « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Ah, mes amis, ce lieu avait une importance d'autant plus que Jésus s'y tenait au milieu de ses disciples et ils ont eu raison de venir se convertir là. On raconte, en ce qui concerne la conversion de Charles Finet, qu'il avait été visité dans son étude d'avocat, visité par le Saint-Esprit. Il avait entendu parler d'un bois où beaucoup étaient allés pour se repentir et se convertir, et il ne voulait pas aller dans ce lieu. Il était prêt à tout faire plutôt que d'aller là. Mais Dieu lui résistait, il avait peur du qu'en dira-t-on, donc voilà. Et de guerre lasse, malgré tout, il alla dans ce bois. Et là, il n'osait pas se mettre à genoux car il avait peur d'être épié. Au moindre sursaut de vent dans les feuilles, il avait l'impression qu'il y avait un spectateur derrière chacune d'elles. Finalement, il décida de se mettre à genoux, qu'il soit ou non en spectacle aux démons et au monde entier. Ce fut là sa conversion. C'est ainsi que Dieu le visita et qu'il se convertit et il fut rempli du Saint-Esprit. Mais il lui fallait être dans ce lieu pour cela. Et aujourd'hui, quelle importance à ce lieu où la parole de Dieu est prêchée. Puisqu'ils sont rassemblés les disciples du Seigneur, ainsi que tous ceux qui veulent s'approcher de lui. Combien il est donc important de réaliser qu'en fait, il s'agit bel et bien du meilleur endroit qui soit pour se convertir. Et puis des conversions, enfin, en dixième, maintenant, qui se font au bon moment. Eh oui, c'est vrai. Dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui, dit le verset 42. Le moment est bon. Même s'il paraît s'exercer dans la difficulté, même si les difficultés extérieures sont réelles, c'est un très bon moment pour se convertir. Pourquoi ? Parce que leur cœur a été préparé par la prédication de Jean-Baptiste ? Parce qu'ils savent maintenant que cette parole est vraie ? Parce qu'ils ont la présence de Jésus qui demeure là ? Combien de temps demeurera-t-il là ? Nul ne le sait. Mais la suite de l'évangile le montre qu'un peu plus tard il est parti, pour ne plus revenir en cet endroit, en tout cas pas avant d'être allé sur la croix. Ils ont aussi la présence des disciples, ils ont la présence de l'assemblée dans cet endroit, et en plus leur cœur est bien disposé. Alors, ils ne tardent plus. Et nous voyons qu'ils se tournent vers le Seigneur pour croire en lui. Ils ne tardent pas, ils ne remettent pas à plus tard, et ils ont bien raison, car c'est leur salut. Oh mes amis, quelle nécessité pour chacun d'entre nous de discerner le bon moment et que ce moment est aujourd'hui. Aujourd'hui, si notre cœur a été touché par la parole de Dieu. Aujourd'hui, si nous savons que cette parole, prédication est vraie. Si nous savons que Jésus accompagne sa prédication selon sa promesse. Puisque l'Assemblée est aussi derrière cela. Puisque le Saint-Esprit veut glorifier Jésus dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il est important de venir à lui dès aujourd'hui, sans plus tarder. Nous allons prier, mes chers amis. Seigneur, c'est vrai, nous te remercions parce que ton désir est que chacune et chacun d'entre nous puisse connaître la réalité d'une véritable conversion. Parce que c'est indispensable pour être sauvé, c'est indispensable pour aller au ciel, c'est indispensable pour être béni par toi, c'est indispensable pour pénétrer, pour entrer dans ton approbation. Et merci parce que ton désir est encore de sauver ceux qui se tournent vers toi maintenant, ceux qui se mettent à genoux aujourd'hui même devant toi et qui confessent leurs péchés dans la repentance et que se tournent vers toi pour te recevoir comme leur sauveur et qui décident de te suivre, de devenir des disciples eux aussi. Merci pour ta grâce que tu mets également sur leur vie, Seigneur, et pour toute bonne œuvre que tu fais pour eux. Amen. Amen. Voilà mes amis, les annonces maintenant, je vous rappelle l'évangélisation dans les villages, c'est ce samedi, rendez-vous ici à 14h30 pour la distribution dans les boîtes aux lettres, ça va être la dernière fois pour la durée des vacances scolaires puisque les missions d'été vont bientôt commencer. Sinon notre culte est prévu toujours à 8h30 et le deuxième culte à 10h45 pour y participer, inscrivez-vous sans tarder, soit en ligne, soit par téléphone. Nous avons aussi une séance de questions bibliques et de réponses. Donc ça, c'est le mercredi à 19h15, avant la réunion de prière. Laquelle réunion de prière se tient à 20h15 le même jour. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, et tout spécialement ceux qui ont à cœur de se convertir véritablement à lui aujourd'hui, en lui ouvrant leur cœur, en l'invitant à entrer en eux et à le recevoir comme leur sauveur et leur Seigneur. Amen.